28 ans plus tard.
Il y a eu tellement de morts.
Une île à l'abri du virus.
C'est pour ça que notre village est si précieux.
Un continent en quarantaine.
Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver.
Réalisé par Danny Boyle, écrit par Alex Garland. 28 ans plus tard, le nouveau volet de la saga culte, le 18 juin au cinéma, avec énergie.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode supplément de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée et juste avant de vous laisser à votre épisode, je voulais vous faire un petit mea culpa. Je suis désolé, j'ai eu un souci d'enregistrement de mon côté, donc on a utilisé une piste de backup. Ma voix sera moins qualitative que d'habitude. Ça n'entache en rien l'expérience d'écoute de cet épisode. Merci par avance pour votre compréhension. Je vous laisse avec le générique et avec l'épisode. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Nous enregistrons cet épisode le 1er avril 2025, mais en fait la temporalité précise n'est pas très très importante compte tenu du sujet qu'on va aborder. Évidemment la temporalité est importante, mais qu'on l'enregistre en mars, avril ou mai, j'ai l'impression que ce sera toujours valable, et peut-être, même si on peut le craindre, que ce sera valable encore pas mal de temps. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et je retrouve, alors d'une part, le responsable du conducteur de cet épisode, comme de beaucoup d'épisodes de Tech Café, mais aussi l'initiateur de l'idée qui a été à l'origine de cet épisode. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Oui, voilà, bah c'est moi sur qui il faudra taper, hein, si jamais...
J'assume. Tapez-moi aussi, j'aime ça. Allez.
On aime tout ça.
Peut-être un mot juste en pré-intro avant que je rappelle aux auditeurs et aux auditrices comment est-ce qu'ils peuvent nous retrouver, nous soutenir et avoir plus d'infos, mais peut-être en deux mots, ton intention derrière cet épisode, Guillaume.
Bah, c'est de parler un petit peu des courants libertariens, techno-libertariens et néo-réactionnaires de la Silicon Valley, parce que la Silicon Valley, c'est beaucoup, beaucoup politisé, ça se voit beaucoup là, et en fait, je pense que c'est pas mal d'en parler, parce qu'on l'a évoqué plein de fois à travers Peter Thiel, on a évoqué plein de fois ces sujets, de manière très très fragmentaire, on va dire, au cours des épisodes précédents, par les années qui ont précédé, je me suis dit que peut-être c'était pas mal d'essayer de faire un épisode qui ne sera pas très très long, hein, pour voilà, résumer un petit peu tout ça et mettre un peu tout ça en perspective.
Et puis vous aurez des ressources que vous pourrez aller creuser dans les notes de l'épisode. Alors juste avant qu'on se lance dans cette chronique, quelque part j'allais dire Guillaume, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé. C'est évidemment hyper important parce qu'on fonctionne largement avec les financements qu'on reçoit sur Patreon. Donc si jamais vous trouvez que Tech Café vous intéresse, a un rôle important au quotidien pour vous, que ce soit en termes de veille tech, mais aussi d'éveil et de questions à se poser dans le monde moderne dans lequel on évolue, si jamais ça vous manquerait tout simplement de pas passer ce petit moment en notre compagnie chaque semaine, vous savez que c'est super facile de consommer le podcast pendant qu'on fait autre chose, et il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres possibilités que Tech Café pour vous de profiter de ces moments-là. Si ça vous manquerait que ça disparaisse, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour envisager un soutien. Ça prend la forme d'un abonnement en échange duquel vous avez quelques contreparties, parmi lesquelles le podcast sans la pub et quelques infos exclusives dans les coulisses du fonctionnement de Tech Café, notamment un petit peu sur mon quotidien. Merci beaucoup en tout cas de l'envisager et même de jeter un coup d'œil, y compris sur la page en version gratuite, patreon.com/techcafé. Il y a aussi une version gratuite. Donc vous n'avez pas les contreparties, mais vous aurez peut-être à l'occasion quelques infos en plus et puis des opportunités de passer sur le modèle payant pendant la durée qu'il vous sciera, puisque cette période est tout à la fois sans engagement ou au contraire vous pouvez vous engager à long terme sur une année par exemple et obtenir une substantielle réduction. Merci beaucoup pour celles et ceux qui l'envisageront. Rendez-vous aussi sur Discord, techcafé.fr/discord, et sur le site techcafé.fr où vous aurez notamment tous les liens vers les articles et même les vidéos qui ont servi à construire cet épisode. Merci beaucoup par avance d'envisager tout ça. Merci Guillaume, à toi l'honneur, sans autre forme de procès, de te lancer dans la chronique que tu as préparée. Tu voudrais un petit peu nous éclairer sur les coulisses de la Silicon Valley notamment.
Oui, bah tu me connais, moi j'ai l'esprit de contradiction. Alors puisqu'on dit qu'on parle trop de politique, moi je vais faire un supplément entier sur le sujet. Voilà, tant pis pour vous. Et puis, de toute façon, c'est pas moi, c'est eux. Voilà, c'est ça, c'est un argument imparable. C'est pas moi qui mets de la politique dans la tech. c'est la tech qui se met à faire de la politique. C'est une partie significative de la Silicon Valley qui part à la conquête du pouvoir, avec une idéologie bien précise en plus. Et ça va plus loin que la politique, ça va même jusqu'à la philosophie politique même. À mon grand désespoir, parce que franchement, c'est pas du tout ma tasse de thé à la base, hein, ce genre de truc. Mais bon, choisis pas. C'est comme avec les ennemis, hein, t'as beau dire que tu détestes personne, que toi tu veux pas d'ennemis, si le gars en face il décide que t'es son ennemi, bah t'es un ennemi et puis c'est tout. Et je suis le premier surpris hein, de voir comment ça a tourné d'ailleurs, parce que ça fait quand même 40 ans que je suis l'attaque, hein, c'est que j'exagère à peine en fait. J'ai rien vu venir. La Silicon Valley, ça fait rêver depuis des décennies, en tant que podcast, on en parle depuis plus de 10 ans. Et ça, ce qui se passe là-bas, voilà, on l'évoque tout le temps, ça fait rêver tout ça, ok. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'une partie de la Silicon Valley, une partie de ces gens-là, développe une idéologie politique, la mette en œuvre, se retrouve au pouvoir, et avec une idéologie qui est au final carrément antidémocratique. Parce que moi, je suis naïf, hein, parce qu'en fait, il y avait des signes. Hein, on connaissait déjà, bien sûr, certains acteurs, quoi, de Peter Thiel à Steve Bannon, à Elon Musk, bien sûr. On connaissait déjà l'idéologie de beaucoup de partisans des cryptos aussi, hein, qu'on a beaucoup suivi et dont on a pas mal parlé. On voyait bien les effets délétères des réseaux, des bulles, et surtout, rien n'a été caché. Quand je dis que c'est une idéologie antidémocratique, c'est pas mon opinion. C'est ce que dit Peter Thiel. C'est pas un secret. C'est écrit noir sur blanc, ou l'inverse, hein, si vous avez le mot sombre. Du coup, je pense qu'on peut s'accorder un épisode supplément pour récapituler un peu tout ça, comment la Silicon Valley a pris le méga melon, en fait. Et on peut remonter la piste idéologique du melon, et qui a abouti non seulement à ce que la Silicon Valley s'intéresse au pouvoir, mais veuille même disrupter le régime politique, et même peut-être même lui succéder, ce qui est peut-être en train de se faire, en réalité, hein, déjà. Donc alors, il y a quelques références que j'ai utilisées pour cet épisode. Donc, je vais quand même pas mal me baser sur le blog Notes from the Circus, où écrit Mike Brock, qui a fait tout le boulot, en fait, hein, celui qui a fait tout le boulot. Et Mike Brock, il a écrit un petit peu partout, sur son blog, mais aussi sur TechDirt, sur LinkedIn même. Et Brock, il a un profil intéressant parce qu'il est lui-même un pur produit de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'il était ingénieur chez Red Hat, puis après il est passé chez Block, qui est la boîte crypto de Jack Dorsey. Il a dirigé TBD, qui était une filiale de Block chargée de faire une plateforme Web3 pour les développeurs. Donc on peut dire qu'il connaît bien le milieu et qu'il connaît pas mal de monde. Alors Block a fini par fermer TBD et se concentrer purement sur le Bitcoin. Donc Mike, c'est pas un anti-tech, hein, et c'est même pas un anti-crypto du tout, hein, même si... c'est pas un anti-crypto, c'est pas vraiment un repenti, c'est juste qu'il connaît le milieu, et lui, il a une vision de tout ça, un peu de l'intérieur aussi. Après, je recommande le chaudement, d'ailleurs, en général, le podcast Sismic, qui a, en l'occurrence, fait une série de 3 épisodes sur les architectes du chaos, c'est la série, le nom de la trilogie. Et dans l'un d'eux, il parle en longueur, en particulier de Peter Thiel, c'est extrêmement intéressant. Peter Thiel, c'est une figure centrale de cette mouvance libertarienne, et c'est une force idéologique majeure derrière tout ça. Hein. Thiel, c'est le cofondateur de PayPal, et c'est un des premiers actionnaires de Facebook. Et il doit à tout ça une fortune absolument colossale. Voilà, il a un fonds d'investissement, et il est, bien malheureusement, très intéressé par la philosophie, qu'il a étudiée à Stanford. Il est aussi diplômé de droit, et c'est un chrétien intégriste. Alors, il cache pas du tout sa foi, hein, loin de là, mais c'est carrément un allumé. Je pèse mes mots, hein. Il a écrit un texte récemment selon lequel l'accession de Trump à la Maison-Blanche augure l'apocalypse, dans le sens d'un changement d'ère qu'il d'ailleurs appelle de ses voeux. Et vous pouvez trouver le texte intégral et commenté dans un article de la revue Le Grand Continent qui est lié dans les notes de l'émission. Il y a aussi un article de Philosophie Magazine sur lui qui est très édifiant où on le voit évoquer la fin de l'ère moderne, je cite, hein, ou comment... Et puis aussi, comment l'homme ou la femme d'État chrétien devrait être un gestionnaire avisé de notre temps. Bon, voilà, ça pose un petit peu les trucs. Donc Thiel, c'est un exemple frappant de capitaliste de l'apocalypse, si j'ose dire. Et il a fait construire des bunkers de luxe pour les ultra-riches pour la fin du monde en Nouvelle-Zélande, hein, ça aussi on en avait parlé d'ailleurs. Enfin, il me semble qu'on l'avait évoqué plusieurs fois. Il est à fond sur les îles artificielles, qui seraient des États privés où tout marche en crypto. Ce qui rejoint d'ailleurs un ouvrage, si vous en voulez plus, qui s'appelle exactement « Le capitalisme de l'apocalypse hein, », qui a été écrit par Quinn Slobodian, qui est un historien canadien qui a écrit un livre qui montre comment le capitalisme mute pour se substituer aux États. Et ça commence avec des enclaves privatisées, avec des ports francs, avec des cités-États, et ça rejoint complètement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est le même courant idéologique hein, qui veut que la démocratie ce soit quelque chose de juste has-been. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est, Il y a une récente interview de Slobodian par Blast qui est très instructive à ce niveau-là.
Ouais, elle est hyper instructive. Alors, il y a juste un truc sur cette interview au passage. Je trouve les questions de Salomé Sack très bonnes. Je trouve les réponses très, très bonnes en face. Mais j'ai parfois l'impression qu'il répond pas aux questions, même si évidemment les sujets qu'il aborde sont hyper intéressants. Je pense qu'effectivement ça mérite d'aller plutôt aussi lire le livre. C'est assez édifiant quand même de voir, moi c'était les réflexions que je me faisais et qu'on se fait ensemble assez souvent malgré tout, Guillaume, quand on fait nos épisodes même hebdo de Tech Café. Et quand on voit ces sujets-là, à quel point les images de cyberpunk, moi du jeu de rôle Shadowrun quand j'étais petit, nous semblait être très éloigné de notre réalité, et à quel point le temps passant on s'en est approché, certes sur l'aspect technologique, il y avait des aspects là-dedans dans la science-fiction même qui étaient trop visionnaires, d'autres complètement à l'ouest bien évidemment, mais aussi sur l'aspect organisationnel des sociétés, le rôle du privé, le rôle des entreprises, le rôle des puissants entre guillemets, hein, en injectant dedans surtout les puissants sur le plan économique. Et je crois que c'est encore une fois une très très belle illustration de à quel point c'est vrai. La question qu'on peut se poser, c'est il y a quoi après, quoi, en fait.
Ben oui, mais justement, donc on va essayer de remonter un petit peu cette chronologie, parce que bon, là actuellement, là bon, quoi, des débuts 2025. Au 1er avril, bah, mais bon, c'est pas très important. En tout cas, au moment où on enregistre, on a le Doge, hein, donc, qui est en train d'œuvrer comme ça dans le gouvernement américain. Et en réalité, pour le Doge, l'efficacité, c'est de débrancher la démocratie, en réalité, petit à petit, et de la remplacer par des intelligences artificielles privées, hein, à Musk, entre autres. Il sait concrètement ce qui est en train de se passer. En tout cas, en partie, il y a une partie des gens qui vont vraiment se faire remplacer comme ça. Les données du gouvernement sont transférées sur des serveurs privés et il y a plus d'élus ni de bureaucrates. Hein. Il y aura des algorithmes et des grands patrons, hein, parce que Musk, il n'a pas été élu, tu vois. Donc effectivement, ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire, quoi. Il y a un côté cyberpunk là-dedans, complètement, qu'on remplace par des algorithmes parce que c'est plus efficace. Algorithmes contrôlés par qui ? Par des mecs super riches de la Silicon Valley qui peuvent décider parce qu'ils ont le contrôle de ces trucs-là. Et au début, on pourrait penser que c'est de l'opportunisme, que c'est un coup d'État à l'arrache pour mettre la mafia PayPal au pouvoir. Et pour certains, d'ailleurs, c'est sans doute ça. Mais pour beaucoup, c'est plus profond. Et ça mijote, en fait, depuis la crise de 2008. En gros, pour ces types, la démocratie, c'est une vieille technologie, toute moisie, qui n'est pas juste inefficace, hein, mais qui est carrément incompatible avec le progrès technologique. Le Doge, il n'est pas là pour faire des économies. C'est un écran de fumée, il est là pour tout effacer. Et l'idéologie derrière tout ça, elle est bien documentée. C'est passé d'une idée assez chelou, né après la crise des subprimes, qui est passé des bas-fonds d'Internet au cœur du pouvoir américain. Tu te souviens sans doute le 15 septembre 2008, je sais plus où on était, mais cette immense banque Lehman Brothers qui a fait faillite, hein, c'est la plus grosse banque d'investissement à se casser la gueule depuis la Grande Récession, ça déclenche une crise financière mondiale, tout le monde galère, et du coup, les gens perdent confiance dans les institutions. Après la crise, il y a des mecs qui sont quand même sortis du lot et qui vont influencer un nouveau mouvement politique aux États-Unis, et en particulier, il y a Curtis Yarvin. Alors, c'est un garçon charmant, hein, c'est un artisan de ce qu'on appelle les Lumières Obscures. C'est eux-mêmes qui s'appellent comme ça. Il est néo-réactionnaire, et d'ailleurs, ils sont un peu anti-tout, anti-démocratie, anti-progressiste, anti-égalitariste. Curtis Yarvin, il est blogueur, surtout, il a commencé vraiment comme blogueur, il a écrit sous un pseudo, ce pseudo de Mencius Moldbug, et il critiquait déjà la démocratie sur son blog Unqualified Reservation depuis 2007. Avec la crise, il a appliqué ses idées qui étaient un peu fringe, hein, à la crise économique. Yarvin, il dit que la crise, c'est un problème d'ingénierie, en fait. Il dit qu'on s'est éloigné du système bancaire misésien, c'est le nom d'un économiste, Ludwig von Mises. Ce système, en gros, c'est le marché libre à fond, sans que l'État se mêle des banques. Et il va comparer ça au système qui est le système de Walter Bagehot, donc Bagehotien, où la banque centrale intervient pendant les crises. Pour Yarvin, ce système est foireux et voué à l'échec, hein, et lui, il est à fond dans ce qu'on appelle l'école autrichienne en économie. C'est une école de pensée qui ne fait pas l'unanimité, l'école autrichienne, hein, qui se fonde sur l'individu, les actions individuelles, la subjectivité totale de la valeur, et surtout un très très fort rejet de l'intervention de l'État, qui va jusqu'à l'anarcho-capitalisme. C'est clairement pas d'hier, attention, hein, c'est pas du tout un truc nouveau, hein, son fondateur est mort dans les années 20, et ça a été beaucoup discuté dans les années 70 face aux écoles marxistes en particulier. Et pendant la crise, Yarvin continue à développer ses idées sur les systèmes politiques et économiques. C'est pas super connu, mais ça commence à parler à des gens qui sont déçus par les institutions classiques, et qui cherchent d'autres explications à la crise. Pendant des années, les libertariens que le marché libre, enfin, disaient que bon, bah, le marché libre, sans intervention, ça marche mieux que n'importe quel gouvernement. Mais si le problème, c'était pas juste l'intervention du gouvernement, mais le système lui-même, la démocratie elle-même. C'est ce que dit Hans Hermann Hoppe, qui a été très inspiré par ce fameux Mises, et qui va pousser le délire libertarien à fond. Et en 2001, il va même sortir un livre qui s'appelle « Democracy, the God that failed », donc le dieu qui a échoué. Ça fait l'effet d'une bombe chez les libertariens, et à l'époque, beaucoup d'Américains pensaient que la démocratie, c'était la fin de l'histoire. Il faut voir que c'était des idées complètement fringe à l'époque, hein, parce qu'il faut se souvenir quand même, hein, en 2001, il y avait effectivement donc, cette expression de la fin de l'histoire, c'est-à-dire que la guerre froide était finie, le modèle occidental avait plié le game, voilà, bon, c'est bon, quoi. Mais Hoppe, il dit que la démocratie, en fait, c'est pas du tout la fin de l'histoire, au contraire, c'est instable. C'est quelque chose qui est une parenthèse, quelque part. C'est instable parce que ça pousse à prendre des décisions à court terme et que c'est pas une gouvernance rationnelle. Et sa solution, c'est de revenir à la monarchie. Et oui, la monarchie, youpi ! Alors, mais attention, pas la monarchie à papy. Parce que Hoppe va imaginer un truc nouveau, il va imaginer une gouvernance privée, des sociétés gérées comme des communautés contractuelles, détenues par des propriétaires et pas par des élus. La citoyenneté, ça devient un contrat et pas un droit de naissance. Donc il n'y a pas besoin de voter, le pouvoir est à ceux qui ont le plus de fric. Hein. C'est le délire libertarien poussé à l'extrême, une société gouvernée par le droit de propriété et pas par l'égalité politique. Alors, ça c'est vraiment, à l'époque, vraiment, c'était vraiment dans des cercles très très restreints. Les années 2010, les idées radicales de Hoppe sur la démocratie trouvent un public au-delà des libertariens durs habituels. À l'époque, la Silicon Valley, elle commençait à apprécier l'idée du technosolutionnisme. On en parle beaucoup du solutionnisme technologique. Hein. C'est l'idée que n'importe quel problème de société pourrait être résolu par la technologie, que ce sera un problème d'ingénierie, quoi. Et ben, pourquoi pas la gouvernance aussi ? La gouvernance pourrait être résolue avec de l'ingénierie. Les élites de la Silicon Valley, qui avaient réussi brillamment dans les affaires, ont commencé à voir la démocratie comme un truc inefficace. Le système comme un truc inefficace et irrationnel pour eux. C'était le résultat de décisions prises par des gens qui n'étaient pas techniques, qui se basent sur leurs émotions. Et ça collait finalement complètement avec la critique de Hoppe. Si la démocratie, c'est juste des choix basés sur des sentiments et faits par des masses ignorantes, ben on peut la remplacer par un truc plus rationnel, comme ces mecs utilisent dans leur boîte. Hein, puisque dans leur boîte, ils utilisent souvent des trucs comme ça. C'est très rationalisé dans les boîtes tech, hein, souvent. Peter Thiel l'a dit clairement dans un essai en 2009. Il a dit « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. » Ce qui pose le game. Hein. Peter Thiel donc finançait déjà des projets pour échapper aux États-nations. On peut citer des trucs comme le seasteading, qui sont des idées de villes flottantes qui sont dans les eaux internationales. La vision de Hoppe, avec ses communautés privées détenues et gouvernées par des élites, justifiait ce que Thiel et ses potes essayaient de construire. C'était pas juste des alternatives à certaines politiques, c'était un remplacement complet de la politique. L'idée que la démocratie est inefficace ou dépassée, ça parlait à ceux qui se voyaient comme des innovateurs, des disrupteurs. Et ce fil conducteur intellectuel, de Mises à Hoppe en passant par Yarvin et Peter Thiel, ça va expliquer l'émergence d'une forme de techno-libertarianisme. Il faut voir que 2008, ça a été un séisme complet, quoi. Ça n'a pas juste flingué l'économie, hein, ça a aussi détruit la confiance dans les institutions. Et les libertariens y ont vu une opportunité. Dans les 10 années qui ont suivi, ces idées ont évolué et ont été soutenues par des figures superpuissantes de la technologie et de la finance. Il y a des millions d'Américains qui ont perdu leur maison en 2008, et leur boulot aussi. Et après la crise, les banques ont été sauvées par les gouvernements. Enfin, on se souvient très bien, c'était l'époque Obama, il me semble bien. Hein, et ça a créé un ressentiment énorme, si tu veux. Un ressentiment énorme que des gens aient perdu tant alors que les banques, eux, qui ont fait les pires conneries, aient été sauvées. Et cette colère, cette immense colère, elle a été canalisée par le mouvement du Tea Party, qui est apparu en 2009, si tu te souviens bien.
Enfin, je l'ai pas du tout en tête.
Le Tea Party, c'est une sorte de nouveau parti de droite qui a créé un changement culturel et qui a préparé beaucoup d'Américains à être réceptifs à des théories politiques et économiques, disons, plus radicales, alternatives. Ça allait au-delà du conservatisme classique, à l'époque, on les considérait comme des conservateurs, quoi. Bon. Mais en fait, ça allait au-delà du conservatisme classique, ça ouvrait la voie à des idées techno-libertariennes et après aussi celles que pourra apporter la Silicon Valley un peu plus tard. Le mouvement mettait l'accent sur la liberté individuelle et sur la méfiance envers le pouvoir centralisé. Et ça résonnait avec le sentiment anti-gouvernement qui grandissait dans les milieux tech. Du coup, les concepts comme les cryptos et la gouvernance décentralisée, qui étaient avant considérés comme des trucs marginaux, ça a commencé à trouver un public plus large. le Tea Party, même s'il ne défendait pas directement ces idées-là, a involontairement préparé une partie de la population à être plus ouvert à l'idée que le système puisse être fondamentalement défectueux ou dépassé. Et l'impact idéologique de la Silicon Valley sur la nouvelle droite, il n'a pas été immédiat, mais ça a augmenté progressivement dans les années 2010, et grâce à l'engagement de figures comme Peter Thiel et à leur immense pognon, hein, bien entendu. Et la crise financière, elle n'a pas juste créé des mouvements politiques comme le Tea Party. Elle a aussi engendré des nouvelles plateformes et des nouvelles formes médiatiques qui ont aidé à diffuser ces idées, bien au-delà de leur cercle d'origine. Et il y en a un qui a été très influent, qui s'appelle Zero Hedge. Zero Hedge, c'est ce site internet qui a été fondé en 2009, qui se concentrait initialement sur les nouvelles financières, le site de finance, quoi. Et il faisait des analyses très pointues, hein, avec une perspective très pessimiste et qui était très très orientée par l'économie autrichienne, par l'idéologie de l'économie autrichienne. Hans Hope se revendique de cette école autrichienne, et, il est donc ultra anti-État, et ouais, globalement il prône un darwinisme social. Quoi. Et Zero Hedge, très probablement, je ne suis pas allé le voir, mais effectivement il existe probablement toujours. Zero Hedge a évolué d'ailleurs d'un bloc financier à une puissance politique. Parce qu'en gros, il faisait une sorte de blanchiment d'idées antidémocratiques sous couvert d'expertise technique. Le site a gagné en crédibilité parce qu'il faisait des critiques sophistiquées hein, sur le trading et les marchés. Il s'est donné une légitimité dans les cercles financiers et c'est devenu du coup un véhicule pour quelque chose de plus radical. L'idée que le système politique lui-même était défectueux, qu'il était aussi défectueux d'ailleurs que les marchés qu'il régulait. Et en 2015, Zero Hedge a fini par faire la même chose que Yarvin, mais adapté à un public plus large. C'était une méthode. Cette méthode, c'est utiliser l'analyse financière technique hein, pour justifier des conclusions politiques. Et ça a servi de modèle à d'autres. Ce qui rendait ce site très efficace, hein, c'était sa capacité à être à cheval sur plusieurs mondes, finalement, parce que c'était des trucs qui étaient cités dans Bloomberg. Bloomberg, en 2016, disait que c'était une puissance Internet, avec une réelle influence dans les cercles financiers. Mais il y a aussi des gens, hein, comme The New World Public, qui le décrivait comme un forum pour les voix haineuses et conspirationnistes de l'alt-right. Donc il avait vraiment les deux trucs. C'était à la fois un truc politique, très très alt-right, et une double identité, si tu veux, vraiment très politique, et aussi financier-technique. Et bon, cette innovation, elle mélange finance et politique, elle suggère des solutions techniques basées sur le marché, et ça collait parfaitement finalement avec la vision émergente de la Silicon Valley. Hein, si les marchés était plus efficace que les gouvernements pour allouer des ressources, pourquoi ne pas laisser aussi gérer le pouvoir politique, quoi. Et après, on peut penser à InfoWars. InfoWars a adopté des positions anti-système exactement comme Zero Hedge. Mais bon, par contre, InfoWars, il n'avait aucune prétention d'expertise technique. Hein. InfoWars, il utilisait une approche beaucoup plus grossière, le chaos. Bon, ça foutait le bordel, le chaos pur, quoi. Et on a vu émerger à cette époque-là, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à avoir émergé ce qu'on a appelé des boucles de rétroaction de propagande, où les audiences et les médias et les élites politiques vont renforcer mutuellement leurs opinions sans que la véracité des faits soit importante. Et il y a eu, parce qu'il faut se souvenir aussi qu'il y avait déjà à l'époque une grosse érosion de la confiance dans les médias et les institutions. Et la prolifération des sources d'informations, comme ça, alternatives, ont préparé le terrain pour une sorte de fragmentation de la réalité. Et d'ailleurs, ça s'est accéléré, hein, parce qu'après, y a eu les médias sociaux, puis les algorithmes des médias sociaux, qui sont conçus pour maximiser l'engagement, ils ont amplifié des contenus sensationnels et clivants, ils ont créé un déluge de récits concurrents qui a rendu de plus en plus difficile de distinguer la vérité de la fiction, avec des implications qui sont très très profondes pour le discours politique et la prise de décision, évidemment. Donc, dans le modèle de Zero Hedge, c'est de privilégier la narration sur l'exactitude des faits. Ça, c'était déjà comme ça, en fait, qui fonctionnait à l'époque. Hein.
On a l'impression qu'on baigne dedans, maintenant.
Mais ça préfigurait complètement l'époque actuelle, où l'information, elle est produite et utilisée comme une arme à travers les algorithmes. InfoWars a poussé ça à l'extrême. Alors, InfoWars, je ne l'ai pas rementionné, mais c'est un site qui a été fondé par Alex Jones en 1999, un média, et il a gagné en popularité nettement après la crise de 2008. Il a un côté très sulfureux, volontiers complotiste, mais c'est pas grave. Les gens cherchaient des explications, InfoWars, ils leur filent des réponses simples et souvent complètement farfelues. Des réponses simples à des problèmes complexes, c'est une recette qui marche pas trop mal, quoi. Et bon, en 2015, InfoWars avait suffisamment de trafic pour générer 80 millions de dollars par an uniquement en vendant des compléments alimentaires et du matériel de survie. Des trucs qui ont d'ailleurs explosé pendant à chaque fois qu'il y a eu des crises. les récits post-vérité peuvent faire pas mal de pognon, hein, comme quoi.
Et l'apothéose étant la crème de la crème là-dedans étant probablement la situation du Covid, quoi.
T'as exactement deviné, évidemment. Parce qu'Infowars a été un modèle pour toute une nouvelle génération de médias alternatifs, et la période de Covid a été extrêmement propice à tous ces trucs-là. La pandémie a été un accélérateur de crise. Zero Age et Infowars, c'est deux stratégies complémentaires, hein. D'un côté on délégitime le système de l'intérieur, et de l'autre on fout le bordel, pur et simple. Curtis Yarvin et ses alliés néo-réacs, bah, ils l'avaient déjà compris tout ça. Ils avaient déjà compris, parce que c'est pas très difficile à comprendre, hein. La légitimité politique dépend de l'existence d'une réalité partagée. Il faut se mettre d'accord sur des trucs, quoi. Il faut se mettre d'accord sur une vérité, sur une réalité. Si tu casses ça, bah, la démocratie, elle est dans l'impasse. La fragmentation des médias, donc, c'est une arme. Steve Bannon a appelé ça, enfin, il avait une expression pour ça qui est très connue, il appelle ça « inonder la zone de merde ». C'est vraiment ça, Steve Bannon il appelle ça comme ça. Et au moment où Trump est entré en fonction, en 2016, la stratégie complète était en marche. Déstabiliser la confiance du public, remplacer l'analyse par des contre-récits sans fin de tous les côtés, et s'assurer que seules les personnes qui en fait, contrôlaient l'information pouvaient vraiment avoir un vrai pouvoir, quoi. Alors, ça, c'est Trump 1. Mais pour Trump 2, il y a un petit truc en plus. Parce que la Silicon Valley, qui a pris le melon, hein, elle veut carrément prendre les rênes du système politique, et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas dans Trump 1. Et elle veut, par a priori, tout remplacer. Et parce que bah, non seulement c'est souhaitable, mais c'est carrément inévitable. Et finalement, les idées qui préfigurent tout ça ne datent pas d'hier, hein. Ça date même d'avant les années 2000. Alors, je ne sais pas ce que tu faisais en 99, toi, je ne sais pas, tu regardais Astérix et Obélix contre César.
Ah ouais, c'est bien possible. Fin de lycée, en tout cas. Ouais.
Mais c'est ça, c'était en 99, tu n'avais pas encore la DSL, et tu n'avais peut-être pas conscience qu'on était alors au plus fort en la bulle Internet. Et pendant ce temps-là, il y avait un mec qui s'appelait James Dale Davidson, enfin, il y avait deux mecs, hein, James Dale Davidson et William Rees-Mogg, qui ont publié un truc, un livre qui s'appelle The Sovereign Individual, donc l'individu souverain, qui est un récit de science-fiction pour l'époque, hein, un récit cyberpunk, puisque ça prédisait l'essor de la crypto-monnaie, déjà à l'époque, les déclins des états-nations traditionnels et l'émergence d'une nouvelle aristocratie numérique. Des impôts qui deviendraient volontaires, plus de réglementation. Des personnes, c'est les personnes les plus performantes, hein, qui formeront leur propre communauté privée et autogérée. Et puis le reste du monde, on s'en fout, plus ou moins. Parce que si vous partez du principe que le gouvernement sera inévitablement déplacé par les réseaux privés, et la technologie privée, et la finance décentralisée, et le gouvernement piloté par l'IA, ben alors, t'essayes plus de réformer, hein, le système politique. Hein. La conclusion la plus radicale, c'est que le gouvernement va être activement démantelé et remplacé par une forme de gouvernance plus efficace. Une forme calquée sur la gouvernance d'entreprise, plutôt que sur la participation démocratique. Et là, on est au-delà du libertarisme classique. C'est-à-dire qu'au lieu de plaider pour une république constitutionnelle avec un gouvernement minimal, ce que faisaient les libertariens à papa, quoi, ben, ce nouveau courant de pensée pousse carrément à un ordre privé où ceux qui ont le plus de ressources et de contrôle, de contrôle technologique, dictent les règles. Et dans cette vision, le pouvoir ne repose pas sur le peuple, hein, il appartient aux dirigeants les plus compétents qui gèrent la société. Mais la société civile, hein, mais comme une société, comme un PDG dirigerait sa boîte. Et ça, ben ça parle aux patrons de la Silicon Valley, parce qu'eux, ils sont tellement successful. Si ça marche pour une multinationale, pourquoi ça ne marchera pas pour un pays, après tout? Et donc, il y a des figures, comme encore une fois Peter Thiel, mais aussi Balaji Srinivasan, qui ont poussé cette logique un peu plus loin, qui ont poussé carrément, au lieu de résister au déclin, ben, ils veulent carrément l'accélérer, quoi. Et en fait, Balaj Srinivasan, là, c'est un associé d'Andreessen Horowitz, et c'était le CTO de Coinbase. Donc, il est très riche, hein, il a pas mal de Bitcoin. Et son kiff à lui, c'est le network state. Et là, on en arrive, si tu veux, à tout ce qu'on a connu, c'est-à-dire la folie Bitcoin, hein, la folie des crypto-monnaies, le Bitcoin, évidemment, il date de 2008, hein, c'est pas un hasard. Lui, le Srinivasan, ce qui était intéressant, c'est que c'est lui qui a un petit peu mis à la mode cette idée de l'État-réseau. L'État-réseau, c'est-à-dire c'est un État virtuel, une communauté digitale qui serait un pays avec sa propre monnaie, sa propre nationalité, qui serait autonome. Et donc, lui, il appelait carrément à sortir des États de manière digitale. Il a fait un livre, hein, qui s'appelle L'État-réseau, comment démarrer un nouveau pays. Et pour lui, les logiciels peuvent réorganiser le monde. Ce qui rappelle aussi cette expression très prisée des milieux crypto, hein, code is law, le code est la loi. Et c'est pas seulement théorique. Il y a eu de réelles tentatives de mise en œuvre. Il y a eu un projet d'État réseau qui s'appelait Praxis au Groenland, qui a été soutenu par Peter Thiel. D'ailleurs, anecdote amusante, hein, en 2023, Curtis Yavin imagine vider Gaza de ses habitants pour en faire une riviera du Moyen-Orient.
Ça a donné des idées, ça.
Voilà, elle serait indépendante avec sa propre crypto, effectivement, ça rappelle des trucs. Et cette mentalité, elle est bien ancrée dans la Silicon Valley, hein, où la disruption, c'est le sens de l'histoire. On apprend aux entrepreneurs que les vieilles institutions, c'est des reliques inefficaces et ça attend d'être remplacé par quelque chose de mieux. Voilà, un peu comme du code. Appliqué au gouvernement, c'est une logique qui mène directement à l'argument de Yarvin. La démocratie, c'est un vieux code, une version obsolète qui ne peut pas suivre la complexité moderne. Il faut donc mettre en production un système supérieur. Et donc, cette version Silicon Valley du libertarisme, elle a été façonnée et renforcée par l'essor de la crypto. Parce que on n'est plus dans comment réduire le gouvernement, mais comment se débarrasser du gouvernement. Ben, c'est simple. Le pouvoir appartient à ceux qui ont les ressources pour construire quelque chose de mieux, comme le milliardaire, hein, par exemple. Et donc, passer de libertarien à techno-libertarien tendance néo-réac, ben, c'est assez logique, finalement. D'abord, la critique libertarine classique, hein, le gouvernement, il a trop de pouvoir, c'est inefficace. Ensuite, tu as un scepticisme qui s'élargit, qui devient beaucoup plus grand à l'égard de toutes les institutions, finalement, qui sont considérées comme lentes et irrationnelles par rapport à la rapidité de la technologie, hein, la logique de la technologie. Et finalement, on en conclut que le régime lui-même, démocratie comprise, hein, bah, c'est un système dépassé, incompatible, et que donc, bah, logiquement, tu peux le remplacer par un truc plus efficace. Srinivasan lui-même, il a évolué un peu comme ça, avec ses opinions sur les cryptos. Au début, pour lui, c'était un outil de liberté financière. Et puis, c'est devenu, dans sa vision, le fondement de formes de gouvernance entièrement nouvelles, qui soient en dehors des structures étatiques traditionnelles. Donc, on est passé de la crypto comme moyen d'émancipation et d'autonomisation individuelle à un moyen de construire des entités politiques entièrement nouvelles. Et là, peut-être qu'on peut me dire, et pourquoi pas, en fait.
Et au fond, c'était un petit peu une réflexion que j'essayais de mener en parallèle, c'est que c'est probablement la manière de rétorquer à tout ça qu'on pourrait émettre. C'est-à-dire, OK, est-ce que finalement, de dénoncer tout ça, de le critiquer, est-ce que c'est pas une opposition de principe? Est-ce que finalement, il faut pas, tu comprends que je me fais l'argument de... l'argumentation. Hein. Mais qu'est-ce qui nous montrerait pas finalement que ça pourrait pas être du mieux? Est-ce que finalement c'est pas une évolution qui pourrait apporter des bienfaits à l'humanité, quoi?
Mais c'est une vraie question, parce que ouais. C'est pas comme si nos systèmes politiques et économiques avaient pas de problème.
Ben oui.
On peut pas nier.
On parle souvent de la démocratie, que c'était un système imparfait parce qu'on a, il est très bien, mais on n'a pas trouvé mieux, quoi. Quelque part, peut-être qu'il y a mieux, effectivement, à imposer.
Le pire système à l'exception de tous les autres, hein. C'est l'expression consacrée.
Ouais.
Mais c'est vrai, tout ne va pas bien dans nos systèmes à nous, on ne peut pas le nier, ça c'est vrai. Le souci qu'il y a avec ça, c'est que le système de remplacement ne fait pas super envie, en fait. Si on regarde ce qui est décrit dans The Sovereign Individual, bah, on a quand même un vrai côté autoritaire, en réalité. Puisque, en gros, l'idée de base, c'est que la technologie, c'est une force qui est impossible à arrêter et qui va inévitablement dissoudre les régimes politiques. Parce que c'est... Ben, il y en a un qui est trop inefficace et l'autre qui est trop efficace, c'est le futur, le progrès, tout ça. Bon, ok, mais du coup, si la technologie devient souveraine, qui c'est qui a le pouvoir, en fait? Ben, le pouvoir, il va être concentré dans les mains de ceux qui maîtrisent la tech. Et qui maîtrise la tech, sinon des multinationales dirigées par des hypermilliardaires? En tout cas, c'est le modèle qu'on a aujourd'hui, quand même. Et alors évidemment, si t'es un de ces gens-là, ben, bien sûr, c'est très séduisant comme perspective. Mais tu vois, on arrive quand même naturellement à une oligarchie, voire à une monarchie. Et d'ailleurs, Hope était monarchiste, hein, carrément. Donc, Yarvin aussi. Hein, donc, c'est le dirigeant, en fait, il va contrôler même aussi l'information. Et on voit aussi à quel point c'est extrêmement important de contrôler l'information, tu vois. Et son autorité peut venir même uniquement du contrôle du paysage global de l'information. Donc, c'est quand même... Bon, on peut se demander, effectivement, c'est évident qu'il y a des trucs à améliorer, c'est dans nos propres systèmes, tout ne va pas bien. Néanmoins, il faut quand même se méfier des alternatives qu'on nous propose, quoi. C'est pas super génial. Mmh. C'est des idées qui étaient marginales, hein, et qui peuvent encore sembler vraiment fringe quand j'en parle comme ça. Et pourtant, elles ont été adoptées à une vitesse qui est assez effrayante, hein, et on peut en voir comme témoignage un article de Vanity Fair, de James Pogue, qui documente ça. James Pogue, il est allé à la conférence, ce journaliste de Vanity Fair, il est allé à la conférence nationale sur le conservatisme de 2022 à Orlando. Et donc, il a rencontré plein de gens, voilà, il fait son boulot de journaliste. Et donc, il a rencontré un peu tout le monde. Il a rencontré des professeurs, des professeurs à papa, quoi, tu vois, des paléo-conservateurs, quoi, maintenant, des gens époque Bush, si tu veux, tu vois. Et puis, il a rencontré des sénateurs républicains traditionnels. Et puis surtout, il a aussi rencontré, et il a été surpris de voir une jeune élite très instruite qui a absorbé la critique de la démocratie de Yarvin et qui, maintenant, carrément, s'efforce de la concrétiser politiquement. Et aujourd'hui, Marc Andreessen dit être pote avec Yarvin. Hein. Il dit le connaître et être influencé. J.D. Vance, il a aussi évoqué explicitement Yarvin. Yarvin, qui a déjà, en 2012, c'est lui qui a repris le concept des pilules rouges et bleues de Matrix, qui est ces pilules pour ouvrir les yeux sur la réalité, une métaphore qui a été reprise par toute la sphère MAGA, et par Elon Musk en particulier, d'ailleurs. Yarvin, pendant la période de crise, il ne se contentait pas de pointer les problèmes économiques, hein. Il avait toute une thèse, et il avait la thèse de la cathédrale. La cathédrale, c'était un système interconnecté de médias, d'universités, de bureaucratie qui, selon lui, maintenait un contrôle idéologique tout en masquant son propre pouvoir. On peut y voir une sorte d'état profond de Trump, hein. C'est à peu près les mêmes idées. Et les crypto-monnaies et les blockchains ont été vus comme des outils parfaits pour traduire ces idées qui étaient des idées assez abstraites, hein, en quelque chose de concret. Et c'est là que Balaj Srinivasan, il est apparu comme une figure clé, parce que lui, évidemment, la crypto, c'est vraiment son truc, quoi. La crypto-monnaie, elle offrait non seulement un moyen de contourner le contrôle monétaire de l'État, mais un modèle de la manière dont la technologie pouvait permettre de nouvelles formes de souveraineté, carrément. Et Peter Thiel et d'autres ont commencé à considérer la crypto c'est pas comme juste comme un instrument financier, mais comme un outil de structuration sociale. Une nouvelle forme de gouvernement basée sur le code, plutôt que sur le jugement humain faillible. Et d'ailleurs, Bitcoin, depuis l'origine, il y a cette mouvance, hein, il y a ces idées. Hein. Bitcoin, il est né en 2008, c'est pas un hasard, hein. Il est né en réaction. Il est né alors que la confiance dans la finance traditionnelle et les banques étaient en chute libre. Philosophiquement, le Bitcoin s'inspire très largement de l'économie autrichienne. Et à partir de là, il y a presque, on pourrait dire, deux courants finalement chez les partisans des cryptos. Hein. Il y a ceux qui insistent sur leur aspect émancipateur des citoyens, servir des valeurs libérales, voilà, servir les valeurs des opprimés, quoi, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a une version maximaliste, où les cryptos doivent remplacer totalement un modèle corrompu qui repose sur des fausses monnaies et des fausses valeurs. Et dans cette thèse, il y a des gens qui ont écrit des bouquins, hein, pour la mettre sur papier. Hein. Et on a un bouquin en 2018 qui s'appelle The Bitcoin Standard de Saifedan Ammous, avec l'idée que le Bitcoin resterait un âge d'or, et un âge d'or perdu d'une monnaie saine, parce que ça serait un nouvel or digital, voilà, qui n'a pas été contaminé, qui n'a pas été, on va dire, taché par la finance traditionnelle ou quoi que ce soit. Ammous verse d'ailleurs volontiers dans un réactionnaire, hein, qui dit ça parce que ça s'accorde parfaitement avec des récits plus larges sur le déclin de la société, la nécessité de restaurer les hiérarchies traditionnelles, etc. Encore maintenant, il y a toujours ces deux tendances libérales et réactionnaires chez les pro-crypto. Dans une certaine mesure, il y a une continuité logique. Hein. Donc il y a une sorte de ligne d'évolution entre la critique de Yarvin suite à la crise financière et la crise constitutionnelle qu'on voit se dérouler sous nos yeux là aux États-Unis. Il y a même un cadre psychologique qui s'est mis en place qui rend acceptable un changement de régime, voire même inévitable. Parce que quand Musk prend le contrôle des systèmes de paiement du Trésor, quand il vire tout le monde, et quand il veut mettre des IA à la place, hein, ou quand Trump déclare qu'il n'appliquera pas les lois qui ne lui plaisent pas, ben on peut y voir la source d'une mise en œuvre des idées qui ont germé dans ce monde-là, aussi le monde des cryptos, tout ça. L'idée que le code peut remplacer les institutions démocratiques, que la compétence technique devrait primer sur le débat, quoi, sur toute autre chose. Que voilà, on est dans le pouvoir privé qui supplante l'autorité et l'autorité publique. Et dans tout ça, Trump, ça a été un facteur de convergence incroyable. Une perfect storm, si on veut, comme ils disent. Une perfect shitstorm, même, on peut le dire. Puisque il a tout, Trump. Il est à la fois hostile aux institutions et il est, mais alors, pas du tout embarrassé par le côté oligarchique. Les oligarques de la tech, lui, c'est payer un million, venez me faire un bisou, quoi, il n'y a aucun souci, tu vois. C'est un wannabe dictateur, hein, quand même, hein, manifestement, hein, ce qu'il est en train de, on est en train de le constater quand même. Hein. Il méprise les contraintes constitutionnelles, il fait primer la loyauté personnelle avant tout le reste, et il considère que le gouvernement devrait servir des intérêts privés. Ça colle pas trop mal avec la vision émergente de la Silicon Valley. Ajoutez à ça un contrôle technologique sans précédent sur l'information, sur les systèmes financiers, les réseaux sociaux, et puis bah t'as tout quoi. T'as l'idéologie qui justifie le démantèlement de l'État, t'as le véhicule politique qui est prêt à le faire, et puis t'as la capacité technologique de le faire. Et d'ailleurs, on peut le quantifier, hein. Il y a des sondages Gallup qui montrent que la confiance dans les médias est passée de 72 à 31% entre 1976 et 2024, tandis que la méfiance envers le gouvernement a atteint 85% après 2008. C'est un sondage de Pew Research. Donc il y a une grosse érosion de la confiance qui a créé un terrain fertile pour ces structures de pouvoir alternatives. Et c'est ce qui se passe avec le Doge, et d'ailleurs, encore une fois, hein, en 2012, Curtis Yarvin avait écrit, avait nommé une doctrine RAGE, RAGE R-A-G-E, et R-A-G-E, ça voulait dire Retire All Government Employees, donc mettre à la retraite tous les employés du gouvernement. Donc tout était écrit plus de 10 ans avant, hein. Donc d'abord on vire les fonctionnaires de carrière, hein, ceux qui pourraient résister, et puis après on installe une infrastructure technique privée, et surtout on rend impossible toute surveillance. Et le Doge veut absolument rester complètement opaque. C'est une constante chez eux. Donc voilà, c'est un petit peu ce à quoi on assiste, quoi. C'est pas juste une prise de contrôle opportuniste par une mafia. C'est quand même aussi l'aboutissement d'une idéologie qui mijote, hein, depuis plus de 10 ans. Et c'est en train d'être mise en place, quoi. Alors, attention, hein. C'est vrai aussi que le gouvernement américain faisait déjà appel lui-même à des acteurs privés, depuis belle lurette. Et que des technologies plus ou moins éthiquement défendables étaient déjà utilisées. Hein. On se souvient de Clearview.
Il y a aussi un système de... Ouais, il y a aussi,
on n'est quand même pas dans les mêmes proportions.
Non, puis il y a aussi eu des systèmes de hack et d'écoute. On a appris d'ailleurs dernièrement que l'ICE, que l'ICE donc, utilisait Shadow Dragon, qui est un outil qui permet de récolter des données personnelles de n'importe qui sur une multitude de sites. Ça permet de faire des recoupements absolument effrayants. C'est vrai, hein, attention, tout n'est pas parfait, tout n'était pas parfait avant. Mais justement, c'était déjà inacceptable. Donc l'idée, ce serait de ne pas faire pire, idéalement. Et là, on a quand même des systèmes privés opaques qui se sont installés au cœur même du gouvernement, quoi. Donc, il y a Transparence que dalle. Qui a voté pour ça? Personne. Bon, en gros, tes droits, c'est les CGU, quoi. C'est les conditions générales d'utilisation. Ça file pas trop envie, tu vois. Alors, c'est en cours. Bon, c'est peut-être le début. C'est en cours. En tout cas, est-ce qu'ils vont réussir? C'est la grosse question. Est-ce que des élites de la Silicon Valley vont réussir à effacer la démocratie ligne par ligne, comme ça, à mettre à jour le code du pays pour déployer un nouveau logiciel? Là, ils sont quand même dans la place, hein. La mafia contrôle la zone, hein. Parce que oui, je parle beaucoup d'idéologie, tout ça. Concrètement, c'est aussi assez mafieux, hein. Parce que pourquoi sinon Trump aurait récemment gracié Trevor Milton? Trevor Milton, qui est l'ex-PDG de Nicola, qui a été condamné pour avoir menti et escroqué ses actionnaires. C'est-à-dire, il n'y avait aucune raison de se faire sortir de prison avant l'heure, si ce n'était pas pour des raisons purement mafieuses. Et au Doge, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a au Doge? Ben, c'est pas facile à savoir, hein. Mais TechCrunch a fait des recherches, il a déjà réussi à identifier une vingtaine de personnes qui, parmi le personnel du Doge, et il a identifié une vingtaine de personnalités très connues de la Silicon Valley. Bon, d'ailleurs, il n'y a que des hommes, il n'y a qu'une seule femme qui s'appelle Amanda Scales, qui a travaillé pour une boîte de capital risque. Et d'ailleurs, il y a une bonne partie de ces gens qui sont aussi dans le venture capital, dans le business du capital risque. Et en particulier, on y trouve Marc Andreessen, encore lui, et un pote à lui, Scott Cooper, qui travaille avec lui. On a aussi plein d'autres capitaux risqueurs, hein, comme des gens qui travaillent chez Expanse, Springtide, Valor, Equity Partner. Et puis, on a beaucoup de fondateurs de start-up de la Silicon Valley, énormément. La plupart des autres, en fait, sont des fondateurs de start-up. On a des cadres, en tout cas, de la Silicon Valley. On a Michael Krastios, qui est l'ex-directeur de Scale.ai. Scale.ai, dont on a parlé, hein, c'est une boîte qui fait du labeling de données pour les intelligences artificielles. Et on en a plein. On a Nate Cavanaugh, on a Stephen Eikian, on a Joe Gebbia, qui a cofondé Airbnb et Samara. On a Brad Smith, pas celui de Microsoft, hein, qui a fondé des boîtes médicales comme CareBridge et qui l'a revendu pour des milliards. Il y en a plein d'autres. Hein. Vous avez là une liste dans les notes, hein, si vous voulez. Tous ne sont pas milliardaires. Aucun n'est pauvre, je vous rassure, mais bon, ils ne sont pas milliardaires, mais il y a gros à parier qu'ils ont tous une vision des choses qui est approchante, quoi, et qui est à peu près influencée par tout ça. Alors, Trump, dans tout ça, je ne sais pas. Je pense que tout ça, il y a une bonne partie de tout ça qui lui passe au-dessus. Parce que franchement, hein, je vois mal une discussion perchée de philosophie politique avec Peter Thiel, le passionné. Tu vois, à mon avis, il s'en fout. Il a le pouvoir, il est invincible, il fait ses caprices, ça lui va parfaitement. De toute façon, il ne peut pas se représenter. Bon, en tout cas, il a 78 ans, il s'éclate. Hein. Et c'est vrai que le fait que les techno-libertariens les utiliser comme un véhicule, comme un bélier même, hein, pour défoncer les portes de l'État, je suis pas sûr qu'ils s'en rendent totalement compte. Pourtant, avec le poids qu'a pris Musk à la Maison Blanche, ça commence à se voir un petit peu. Enfin, que Donald Trump comprenne tout ou pas, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de gens autour qui comprennent parfaitement. J.D. Vance, qui est le vice-président, hein, il a étudié le travail de Curtis Yavin, c'est clair. Peter Thiel, qui est le mécène de J.D. Vance de longue date, finance cette vision depuis des années et des années. Les agents du Doge travaillent à un avenir pérenne, qui va bien au-delà de Trump lui-même. Et d'ailleurs, avec ton expression là, oui, effectivement, Trump a dernièrement affirmé penser sérieusement à un troisième mandat. Il a dit ça sur la chaîne NBC, hein, il y a aujourd'hui même, enfin aujourd'hui donc le 1er avril, ou peut-être le jour d'avant. C'est clairement inconstitutionnel ça, hein, mais ça n'a pas l'air de le gêner tant que ça. Hein. Bon, donc le pire n'est pas encore certain. Après tout ça, on fait quoi? Ben là, pour l'instant, ça fait quoi, 3 mois hein, au moment où on enregistre hein, que Trump est grosso modo au pouvoir. L'opposition reste encore timide pour le moment. Il y a quand même beaucoup de juges qui montent au créneau. Il y a des décisions de justice qui annulent des executive orders. Voilà, pas mal. Hein. Après, il y a aussi des appels. Et puis, il faudra voir à quel point la volonté des juges sera respectée. Parce que, pour le moment, l'exécutif se comporte comme s'il n'y avait pas de contre-pouvoir. Et puis, ils essaient de décrédibiliser les juges tout le temps. Ils disent qu'ils ne feront pas ça. Parce que, voilà, c'est pas la volonté du peuple, etc. Donc, faut voir à quel point, comment ça va tourner. Quoi. Il y a des mouvements citoyens. On a parlé des grosses manifs Tesla il n'y a pas longtemps. Il faudra aussi voir comment évoluent les tensions internes chez les Républicains, parce que les Républicains sont voués à exploser un jour, a priori, parce qu'il y a une division nette entre la base MAGA, la base historique, hein, si j'ose dire, et les technomilliardaires. Et Vance est très conscient, puisque le 18 mars, il a fait un discours où il se dit qu'il est finalement dans les deux camps. Non, il est dans les deux camps parce que Vigil Evans, c'est l'auteur d'Hillbilly Elegy, hein, qui est donc un roman sur l'Amérique blanche pauvre qui a fait énormément qui a eu un énorme succès. Donc ça l'ancre, si tu veux, chez les MAGA. Et puis, c'est aussi un ex-venture capitaliste, protégé de Peter Thiel. Et donc, lui, il plaide pour une synthèse. Voilà, la technologie, sur le long terme, ça va accroître la valeur du travail. Bien entendu, l'argument principal, c'est qu'ils ont le même ennemi. Parce qu'évidemment, hein, c'est, selon la remarquable constance rhétorique populiste, bon, il faut trouver un ennemi. Et c'est ça qui est réuni, c'est l'ennemi. On est toujours la victime d'un ennemi. Et cet ennemi, c'est qui? Ben, c'est le gouvernement américain de ces 40 dernières années, hein, je cite. Cela dit, si les chatbots ou des robots finissent par prendre les quelques jobs que la mondialisation n'a pas éliminés, ben, ça va être difficile à vendre hein, comme argument. Bon, voilà, c'est à peu près ce que je voulais en dire. C'est pas trop ma zone de confort tout ça, mais bon. J'ai déjà beaucoup trop parlé, je pense que c'était important de faire un petit tour d'horizon là-dessus. On avait dit hein, qu'il faudrait peut-être parler de la vague libertarienne dans la Silicon Valley, bon, maintenant que c'est devenu un tsunami, eh ben, c'est fait.
C'est fait avec en plus des références dans les notes de l'épisode, donc vous pourrez aller creuser. C'est vrai que la question qu'on peut se poser, bon, à l'échelle des États-Unis, on verra comment les choses évoluent. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il peut y avoir une viralité, une propagation dans d'autres environnements. Quand on voit l'arrivée de certains populismes et certains mouvements d'extrême droite, et aussi appuyé par une certaine relative adhésion au concept même de réalité. On le voit même en France sur certaines affirmations, certaines positions politiques. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour si on est contre ce type de projet. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de personnes qui semble être plutôt contre les propositions telles que assumées et telles que présentées aux États-Unis, et en tout cas telles que tu les as décrites. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, je suis un petit peu démuni là-dessus, parce que j'ai l'impression que par rapport à ces mouvements, par rapport à cette orientation des choses, quand elle s'installe ou quand elle est installée comme elle l'est depuis plusieurs années, c'est déjà trop tard quelque part. Moi, je crois beaucoup en la valeur de l'éducation, de la capacité à mettre en balance ce qui nous est apporté comme information, avoir un regard critique, non pas critique systématiquement de considérer qu'on nous ment, mais essayer de penser par soi-même et d'essayer de trouver des sources d'inspiration et de réflexion qui soient de nature à nous faire avancer, de pouvoir confronter ça avec une certaine forme de bienveillance et de sérénité malgré tout. Et à part ça, je suis un peu démuni. Donc je ne sais pas si toi, par rapport à tout ça, tu vois cette situation comme quelque chose d'extrêmement inéluctable, avec une forme de cynisme et une forme de résignation. Je sais que tu t'orientes vers des jeux de simulation d'EHPAD sur Steam, donc ça laisse peut-être imaginer que tu veux pas t'en occuper de ton vivant. Et puis peut-être qu'on est démunis à titre individuel, mais tu vois, je me pose juste la question de qu'est-ce qu'on peut faire finalement à titre individuel.
Ouais, bah ça c'est effectivement, c'est extrêmement compliqué. Parce que, la démocratie, est-ce que c'est quelque chose qui est, est-ce que c'est quelque chose qui est stable ou pas, fondamentalement, j'en sais rien. Si ça se trouve, on a juste de la chance de vivre, nous, de grandir, de naître et de vivre et de grandir, et pour encore quelques années de profiter d'une démocratie libérale. Et est-ce que finalement, la démocratie libérale, avec ses systèmes de contre-pouvoir, c'est quelque chose de stable? Ou est-ce que c'était juste une parenthèse enchantée de l'histoire? Je n'en ai aucune idée, en réalité. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est jamais trop tard. Disons, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont quand même assez avancés, on va dire, dans le problème. Et puis, dans certains pays, c'est vraiment très très compliqué de revenir en arrière, hein, parce que en Russie, ça tourne à des régimes policiers, des régimes où c'est extrêmement dangereux de s'exprimer et où il faut avoir énormément de courage pour se lever et s'exprimer. Donc, c'est pas évident. Les États-Unis, c'est quand même un contexte très particulier, parce que même si effectivement le populisme est cet attrait pour les hommes forts, les solutions musclées et un peu simples, peut-être un peu trop simples, c'est un peu partout, et c'est en Europe aussi, et c'est en France aussi. Les États-Unis ont quand même aussi un profil très particulier au niveau idéologique, hein. Autant au niveau religieux, parce que bon, là j'ai pas énormément parlé du volet religieux, mais il y a un volet religieux évident. On est aux États-Unis, c'est les fous de Dieu de toute façon, hein, et en particulier ceux qui sont arrivés au pouvoir, hein, J.D. Vance, enfin, je suppose que vous avez tous vu l'image de Marco Rubio avec la croix en cendre sur la tête au moment du carême. Bon, voilà, ça pose des choses. Il y a aussi tout ce volet-là que bon, nous, on n'a pas. Nous, on a des milliardaires oui, aussi, mais on n'a pas non plus de Silicon Valley. On n'a pas on n'a pas le même rapport non plus au capitalisme. On n'a pas le même rapport aux prestations sociales, à l'État, à ce que l'État doit faire. Bon. Donc, en France, si tu veux, ça, c'est pas réplicable tel quel, ça, c'est certain. Malheureusement, oui, il y a des choses qui... Voilà, il y a des dangers qui nous guettent aussi. Les démocraties, la démocratie, c'est quelque chose d'assez fragile, finalement, apparemment, qui peut se perdre facilement. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individuellement? Évidemment, tu me poses une colle, qu'est-ce que je peux dire? Effectivement, il faut conserver son esprit critique, mais sans verser non plus dans le complotisme, parce que... C'est ça le problème, c'est-à-dire si tu commences à douter de tout le temps et à t'enfermer dans une bulle informationnelle, ben là tu peux te perdre complètement. Et il faut avoir un doute raisonnable, c'est-à-dire tu peux douter évidemment, mais c'est même très sain de douter et de se poser des questions et de creuser les sujets. Mais il faut pas les creuser trop et voir des choses là où il y en a pas non plus. C'est pas évident. Et puis il faut surtout se dire que les choses sont complexes en réalité. Les choses sont pas simples. Quand on te propose des solutions simples, souvent c'est qu'on t'explique pas tout. Malheureusement, le monde est extrêmement compliqué. Extrêmement interconnecté. On en parle tout le temps, mais si tu veux, le monde, c'est un système excessivement complexe, et si on te dit qu'il y a des solutions simples, c'est que très certainement, on te prend pour un idiot. Et il faut se méfier des bulles informationnelles aussi, il faut se méfier de ce qu'on entend, de se dire, on joue un truc sur les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux, ok, qui le dit? Tu vois, est-ce que c'est corroboré par d'autres choses? Est-ce que c'est censé? Est-ce que tu peux croiser? Quelle est la source? Est-ce que tu peux croiser les sources? Est-ce que l'information que tu reçois a une véritable qualité? Et c'est la qualité de l'information, c'est excessivement important parce que c'est comme j'en disais, mais c'est un lieu commun. Hein. Je veux dire, si on n'a pas de concept de réalité partagée, si on s'accorde pas sur une réalité, sur une vérité, enfin sur une part, enfin, en tout cas sur un socle de vérité, c'est foutu. Comment tu veux discuter avec quelqu'un pour qui la réalité est complètement différente? C'est pas possible. Donc il faut revenir au factuel. Il faut s'accorder, si tu veux, à ce qu'effectivement on puisse partager une réalité et s'accorder sur un certain nombre de trucs, quoi. Donc il faut se méfier de ces fossés informationnels qui sont toujours en train de se creuser, hein, pour le coup, même en France. Hein. Et il faut veiller vraiment à la qualité de l'information et se dire que bon, les choses sont complexes, il faut parfois, consacrer du temps et peut-être un peu plus d'efforts à essayer de s'informer et de comprendre les choses plus en profondeur.
On espère que, très humblement, avec Tech Café, contribuer un petit peu à ça aussi. Et dans cette veine, n'hésitez pas évidemment à
oui,
apporter votre regard.
Sachant que moi, bon voilà, je dis ça, mais c'est clairement la politique, la philosophie politique, la philosophie tout court, c'est pas mon truc du tout. Hein. Là, j'ai parlé de ça parce que bah, ça concerne la Silicon Valley. Et qu'il y a une intersection, si tu veux, entre la tech et le politique qui est devenue inévitable, en fait. Et c'est pour ça aussi quoi, que voilà, je me suis dit, bon, bah, autant faire un sub dessus. Quoi, hein. Bon, après, voilà.
Ouais, mais évidemment, dans cette vocation de partager cette info et d'ouvrir des champs de réflexion, n'hésitez évidemment à apporter votre pierre à l'édifice. Il y a plein de canaux pour interagir ensemble, évidemment Discord, vous le savez, mais aussi sur les commentaires du site techcafé.fr. C'est aussi très précieux d'avoir vos retours, évidemment, toujours avec bienveillance, s'il vous plaît. Et j'en profite parce que j'avais pas du tout prévu de le brancher avec cet épisode supplément que tu as préparé Guillaume, mais je suis allé au cinéma avec mon fils ce week-end et je suis allé voir un film que j'avais pas trop suivi, je sais pas si tu l'as vu ou si tu en as entendu parler, mais de Mickey 17.
Alors j'en ai entendu parler, j'aimerais bien le voir d'ailleurs. Oui.
En fait c'est assez marrant parce que c'est un des films de science-fiction qui était prévu à l'affiche cette année. Puis je guette un peu les films de science-fiction au cinéma. Il est sorti durant ce mois de mars. Il est tiré d'un roman. Juste pour donner un petit peu le cadre, c'est évidemment donc une histoire de l'ordre de la science-fiction, mais il y a quelque chose de à la fois burlesque et en même temps c'est une vraie aventure. Le postulat de départ, c'est qu'on suit Mickey Barnes qui est un remplaçable dans un vaisseau spatial qui va coloniser une planète qui est inhabitée. Et en fait, un remplaçable, c'est quelqu'un qui peut, c'est commode, en tout cas au premier abord, mourir. Et comme ça, toute sa conscience est sauvegardée en permanence, on peut le réimprimer à l'identique. Et donc, bah, du coup, il peut mourir, mais c'est pas grave. Il revit derrière. Enfin, c'est pas grave pour lui, c'est pas grave. Mais enfin, il revit derrière. Et puis, bah voilà, on peut lui faire faire des tests. Il peut servir de cobaye, etc. Et c'est une vraie économie. C'est une satire des sociétés autocratiques. Et je ne vais pas évidemment en dire plus, mais j'ai été très surpris parce que finalement, j'en attendais pas grand-chose. Et on est ressorti de là avec mon fils, avec une super belle impression de ce film et des réflexions qui me sont évoquées par les éléments que tu as partagés dans l'épisode, qui ne sont pas neutres. Évidemment, rien à voir, on est dans de la fiction, mais évidemment, ouais. C'est une espèce de satire qui n'est pas inintéressante à suivre.
Bon, bah, tu me pousses du coup à plugger un truc aussi. Clairement, pour un truc qui est beaucoup plus proche de nous et de ce qui se passe en France, mais qui est aussi très 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 très, très connu, bon, c'est un lieu où peut-être même c'est assez évident de le recommander, mais je recommande la série La Fièvre, qui est donc faite par les mêmes gens qui ont fait Baron Noir, et c'est avec Nina Meurice, Anna Girardot, c'est une série donc qui est très voilà qui est assez réaliste hein, et qui montre l'ascension d'une figure d'extrême droite en France et bon voilà je veux rien déflorer hein, mais voilà c'est ça s'ancre vraiment pas mal dans le réel. Il y a Benjamin Biolay aussi qui joue un entraîneur enfin un patron de club sportif et c'est très je pense que c'est très réaliste. Ça explique pas mal de concepts en fait de sociologie, de politique qui sont assez intéressants. Et ça montre comment ça peut déraper et aussi comment on peut essayer d'éviter ça. C'est-à-dire qu'on peut travailler justement à réunir plutôt que diviser quoi, tout le temps.
Ok, donc quelque part, ça peut contribuer dans certaines mesures à répondre à ma question piège de qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être, j'imagine. En tout cas, j'irai jeter un coup d'œil, je ne connaissais pas. Merci beaucoup pour la préparation de cet épisode, Guillaume, et puis pour les messages qui sont partagés. On compte sur vous pour réagir, si évidemment vous êtes convaincu sur le bien fondé de Tech Café dans votre veille au quotidien, sur les informations que ça vous apporte et sur les questions que ça vous pose. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour envisager un abonnement. En attendant, on peut également prendre connaissance de vos retours sur Discord et techcafé.fr dans les commentaires, mais aussi peut-être à titre individuel, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver?
On peut me retrouver dans ma chambre sur iPad Simulator en train de regarder Question pour un champion et d'attendre le prochain bingo avec impatience. Non, je
Tu fais rêver.
N'est-ce pas?
Ça marche, mais moi, vous me retrouverez peut-être en train de regarder La Fièvre. Allez savoir, Guillaume Vendée, notamment sur Blue Sky. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.